vie, c'est de l'anti-routine quasiment. Mm-hmm. Je suis incapable de suivre une recette de gâteau, une recette de cuisine. Enfin, l'autre fois, j'avais une copine qui était là, je préparais un gâteau d'anniversaire pour amener à l'école pour ma fille. Et elle m'en regardait avec des grands yeux. Elle me dit, mais attends, mais ça va être immangeable. T'as rien regardé ce que tu faisais. Tout en parlant, t'as mélangé des choses. C'est toujours de l'expérimentation un peu, mais... Il était bon, le gâteau.
J'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve. Mon rêve.
Elena a 39 ans. Elle est artiste plasticienne et coordinatrice du groupe d'art contemporain d'Annonay. Dans cet épisode, elle nous raconte son enfance entre le Danemark et la France, sa rencontre avec le milieu artistique, son année dans une ferme au Minnesota, ou encore ses études à la Villa Arson à Nice. Sa vie d'adulte, de Lyon à Saint-Julien-Molin-Molette, son quotidien au GAC, l'histoire de l'association Moustache et Dentelle qu'elle a fondée, le regard qu'elle porte sur la province, sa vision de l'art et sa manière de travailler son art, les enjeux d'être à la fois une femme, mère, compagne et artiste, et enfin, la place qu'ont, selon elle, les femmes artistes dans la société.
Prenons plutôt au soir qui penche, la pince, le lieu qui balance, quelle est jolie sa voile blanche qui danse.
Mon père était hollandais, donc j'avais déjà un pied en dehors du plat, on va dire. Et j'ai toujours grandi en étant un peu, enfin, en me sentant un peu à part, tout ce qui est scolaire, des choses comme ça, en gros, jusqu'au collège, enfin jusqu'à ce que je parte à 10 ans, on n'avait pas vraiment, enfin, on avait des cours, on apprenait les maths, le danois, mais par contre, il y avait beaucoup plus de découvertes par l'expérimentation, par des éducations qui peuvent plus ressembler à ce qu'on découvre dans les écoles Steiner ou des choses comme ça.
Ouais.
Enfin, de ce que j'ai pu découvrir. Enfin, voilà, exactement. Enfin, on est vraiment plus dans une liberté.
Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écoute.
Mon père, qui était dans la restauration, trouvait qu'à cette époque-là, il y avait vraiment une pauvreté au niveau des ingrédients qu'il pouvait avoir. Enfin, il avait besoin d'exotisme dans sa cuisine. Et il s'inspirait déjà beaucoup de la cuisine française. Et puis, il y avait le vin, donc sa passion pour les vins. Donc, il importait énormément de vin déjà au Danemark. Et donc, il a eu envie de vraiment venir. Après, ce n'était pas n'importe quoi comme projet, parce qu'il est parti un an avant nous pour construire un hôtel. Donc, ça a été assez long. Pendant un an, on ne l'a quasiment pas vu. Projet assez, pour l'époque, assez loufoque, parce que... C'est un grand bâtiment construit dans la roche, en fait, en Alsace. Ouais. Et...
Comment t'as vécu ce changement de passer du Danemark à la France ?
Oh là là, c'était l'horreur. Non, à 10 ans, t'es quand même ouverte vers l'aventure. Après, j'étais triste de quitter mes copines. Après, pendant les premières années, enfin, quasiment jusqu'à mes 15-16 ans, je retournais au moins un ou deux mois l'été au Danemark, enfin, sans mes parents, où j'allais chez des amis. Et on y allait... très très régulièrement quand même aussi avec mes parents dans l'année, donc ça allait. Après, c'est sûr que c'était un choc au niveau éducation. Enfin voilà, je suis arrivée dans une toute petite école de village où l'enseignant hurlait sur les élèves, enfin il donnait des claques.
Ouais.
Parce que voilà ce que j'avais jamais vu. Enfin voilà, au Danemark, enfin, on ne lève pas la main sur un enfant et encore moins les enfants. Du coup, c'était assez particulier. Mon tout premier cours était un cours d'allemand. Et je suis rentrée super fière à la maison en pensant avoir appris des mots en français, sauf que c'était de l'allemand. Enfin, j'étais vraiment paumée, quoi. Ma mère, elle a éclaté de rire parce que je lui ai sorti une phrase en allemand en pensant que c'était du français. Ouais, c'était un peu compliqué au début. Ma mère, pour nous apprendre le français en avance, elle n'avait pas grand-chose. Donc, elle avait Peau d'âne de Jacques Demy. Donc, elle nous mettait sur un vieux VHS qu'on était encore au Danemark. Et du coup, je regardais cette chose. Donc, Jacques Demy a une importance très, très importante. Et après, quand je suis arrivée en France, j'ai appris plus avec les dessins animés. J'étais fan de Dragon Ball. Enfin, du coup, ça fait un mélange entre Jacques Demy et des Dragon Ball. Donc, c'est assez étrange.
Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur.
Dans ma famille, j'avais deux oncles qui étaient peintres. Un que je voyais assez régulièrement, l'autre non, parce que malheureusement, il est mort en 89 à New York, de toute la vague du sida, enfin voilà, quand il arrivait. Donc, Donc lui, je l'ai un peu moins vu, mais par contre, on a quand même assez... je l'ai souvent vu à l'Action. Enfin, on allait quand même régulièrement voir des expos. Pas toujours à mon goût, parce que je garde un souvenir traumatisant de Rembrandt quand j'étais petite. Mais sinon, j'aimais assez bien. Et puis, c'est en arrivant en France à 10 ans que j'ai vraiment commencé des cours d'art plastique. Et notamment, je m'en souviens avoir découvert une première exposition de surréalistes. Et j'étais comme une dingue à commencer à dessiner. Donc, il y avait toujours de l'art accroché autour de nous. J'avais l'habitude d'en voir. Donc, quand j'étais tout petite, je faisais des BD, des illustrations, comme des enfants. Mais après, c'est quand même arrivé assez tôt. Parce que 10 ans, déjà, vouloir dire « je veux être artiste », ça fait bizarre. J'étais partie à Londres avec ma mère. Donc, on voyait plein d'expos. Et elle commençait à me dire « Ouais, mais Elena, t'es douée en langue. Enfin, si tu faisais hôtesse de l'air, tu pourrais voir des expos de partout dans le monde. Enfin, voyager. » Et pendant un fragment de seconde, j'étais là. J'ai dit « Bah non, ça va pas, en fait. » Dès que j'ai pu... je me suis lancée en option art au lycée. J'ai quand même fait croire à mes parents à un moment qui, eux, ont essayé de me motiver à aller en scientifique parce que j'avais beaucoup de facilité en maths. Mais
ça ne te plaisait pas plus que ça, quoi.
Non. Et c'est un peu grâce à ça que j'ai pu partir aux États-Unis parce que j'ai dit, entre ma seconde et ma première, j'ai dit, je vais prendre une année pour réfléchir si je fais option art ou scientifique. Et en fait, j'étais très sûre de moi.
Tu les as bien eues.
Oui.
Et je peux continuer mon rêve.
Du coup, à ce moment-là, j'étais encore très reliée avec des copines au Danemark. Et ça se fait beaucoup qu'eux, quand ils ont fini du coup, le collège, ils partent faire une année sabbatique avant de se lancer dans une option au lycée. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et donc, j'avais ma meilleure amie qui partait aux États-Unis. Le principe, c'est qu'on faisait juste une lettre de motivation. On n'avait aucune idée où on tombait. Moi, j'avais bien envie de tomber dans un pays anglophone. Enfin, j'avais choisi les États-Unis. Ma meilleure amie, du coup, elle est tombée dans une famille d'artistes à New York. J'étais assez dégoûtée.
Oh,
j'ai eu le malheur de marquer sur mon CV que j'aimais dessiner et que j'aimais les animaux. Donc, ils ont dit, on va la mettre dans une ferme. Elle peut s'occuper au milieu de nulle part. Tout va bien. L'hiver est arrivé avec 3 mètres de neige tout de suite, en fait. Et on ne pouvait même pas sortir. Donc, ça fait qu'on reste beaucoup à l'intérieur, on dessine. Voilà. Ça a développé cette chose-là et peut-être là aussi la recherche personnelle, en fait, d'avoir de l'autonomie, en fait, et pas être dans des cours, des choses comme ça, de le faire de soi-même. Après, une chose qui est bien quand il fait moins 50, c'est le matin, tu as le radio-réveil qui sonne, et t'entends la radio pour te réveiller, et là t'entends une liste immense d'écoles qui sont fermées, et t'as pas cours, parce que ça arrivait quand même souvent que même les voitures, c'était trop dangereux de sortir. Ouais. En gros, ils m'avaient mis en terminale là-bas, parce que l'année de terminale, c'est l'année où il y a le plus de choses qui se passent pour les élèves, c'est l'année la plus spectaculaire, et pour ça, honnêtement, les États-Unis sont vraiment... vraiment en avance, il se passe des choses au lycée. Il y avait plein de semaines à thème où on se déguisait. J'ai malheureusement aussi fait le bal de fin d'année. le diplôme avec les chapeaux carrés qu'on met, l'espèce de petit froufrou d'un côté et puis de l'autre. Avec le diplôme qui est mis en romain. C'est quand même très spectaculaire. Alors que quand je suis revenue en France, mon bac, je l'ai cherché tout seul. Je suis allée voir une liste, j'ai fait « Ah, je l'ai ». Et voilà, c'est tout. Alors que là, c'est vraiment beaucoup de fêtes et des préparatifs en avance. C'est autre chose.
Que l'amour soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles, en été un jour au soleil, au soleil.
Après donc ton bac en France, tu pars en année de prépa, tu entres à l'école des beaux-arts de la Villa Arson à Nice.
Oui, j'avais fait l'année de prépa parce que j'étais un peu trop à l'ouest au lycée pour savoir qu'il fallait passer des concours, donc j'avais pas préparé vraiment des choses et en tout cas je m'étais pas inscrite pour des écoles d'art pour passer les concours. Après ça m'a permis de faire vraiment une mise à niveau technique qui était très poussé parce que la plupart des gens partaient après en illustration aux Arts Déco de Strasbourg, là où j'étais. Quand j'ai découvert la Villa Arson, c'est une ancienne villa avec des bâtiments très contemporains, tout en galets, qui est au milieu d'un parc avec des œuvres de partout. Et là, tu fais waouh! T'as pas envie de repartir. Donc, en plus, j'ai eu les résultats 2 ou 3 jours après. Donc, j'ai dit non, j'ai choisi cette école-là. Et c'est 5 ans de bonheur. On va dire, parce que c'est quand même plein de des prises de tête, enfin voilà, avec soi-même, enfin voilà, parce que on se remet en question non-stop. C'est dur parce que dans les premières années, enfin, ça joue pas mal sur. Enfin, il y a pas mal de professeurs qui essayent de tester, enfin, à quel point tu es solide, parce que en gros, tu rentres, tu es nombreux, et la première année, c'est là où il y a le plus de sélection. Donc, c'est pas que les élèves sont virés, ils s'arrêtent d'eux-mêmes, en fait. Ouais. Donc il faut tenir assez bon, être. Enfin, mais c'est là où justement, quand je disais tout à l'heure, quand j'étais petite, je savais pas dire non, qu'après j'ai appris à dire non. Enfin, c'est que ils sont là pour contredire ton travail, et toi, tu es allé à dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, parce que je le dis, en fait. Et après, donner les arguments. Et je pense que c'est aussi cette chose-là qui. Enfin, que j'ai adoré, enfin, dans la pratique artistique, cette chose de se mettre en question soi-même, en fait, et chercher des réponses à tout, et que c'est une manière de réfléchir que je trouve qui sert tous les jours. Et c'est pas seulement dans la qu'on produit, enfin.
C'est sûr.
La chance de cette école-là aussi, enfin, sans parler que le cadre est vraiment magnifique et qu'il y a des énormes ateliers, c'est qu'il y a cette proximité entre le centre d'art qui est, et des résidences d'artistes qui viennent sur place. Donc, tu baignes dans le milieu. Et après, je n'ai pas travaillé pendant les 5 années parce que tu peux seulement commencer en 3e année à faire les médiations et les montages d'expos. Mais dès que je pouvais le faire. Et ça donnait une autre expérience encore, même si parfois c'était un peu pénible parce que, enfin, il n'y avait pas toujours énormément de monde dans le centre d'art. Et tu n'avais qu'une envie, c'était de retourner, finir ce que tu avais en cours dans l'atelier. Et du coup, d'être là à garder une expo, c'était parfois un peu long, mais par contre, c'était, enfin, le travail avec les artistes, ça, c'était vraiment, enfin, j'adorais. Enfin,
Oui, puis en même temps, ça te mettait un pied dans le monde réel, dans le monde du travail, donc je trouve que c'est...
Parce que ça, c'est un peu le problème des Beaux-Arts, c'est qu'à la fin de... Enfin, on passe un diplôme en 3e année, on peut s'arrêter au bout de 3 ans, après, au bout de 5 ans, on a un autre diplôme, mais une fois qu'on sort, enfin, il est beau, ce diplôme, mais...
Et qu'est-ce qu'on en fait ?
Ouais, il sert strictement à rien, enfin, c'est... C'est une expérience avant d'être un diplôme.
Regardez dans le soir qui penche, la pince au poilier qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse.
À la sortie de la Villa Arson, Elena rejoint son compagnon David, artiste lui aussi, parti un an plus tôt qu'elle de l'école. Ils se retrouvent à Lyon durant 3 ans et de leur amour naît leur premier enfant. Ils partent alors tous les trois s'installer à Saint-Julien-Molin-Molette, un village situé dans la Loire, d'un peu plus de 1500 habitants.
Le nom de Saint-Julien-Molin-Molette, on l'oublie pas. Et mon ami qui avait vécu à Nonnet et qui voulait jamais revenir, enfin voilà, comme beaucoup d'étudiants, à partir de quand tu as 18 ans, tu veux partir et tu dis que tu ne remettras jamais, voilà. Mais du coup. Voilà, une fois, il m'avait parlé de ce nom, je l'avais vraiment retenu. Et moi, j'avais juste une envie de partir. Et on est allé visiter une petite maison. Il n'y avait pas vraiment de la place, mais après, on est allé visiter la Sainte-Marthe, la plus grande usine de Saint-Julien. Et là, je me suis dit, oh, cet espace, tout ce qui est possible, enfin, voilà. Et contrairement à un petit appartement, enfin, après, pour travailler, je me suis toujours adaptée aux espaces, mais du coup, la pratique, elle s'adapte aussi. Donc, voilà, quand j'étais dans un appartement, je dessinais, je faisais des dessins animés, enfin, voilà, des choses qui peuvent tenir sur un bureau, mais après, la sculpture, ça m'est manqué beaucoup.
Tu avais envie de prendre plus d'ampleur aussi dans ce moment-là.
Après, à Lyon, je faisais des allers-retours. Ouais. J'avais un atelier à un moment dans le Beaujolais, mais faire des allers-retours tout le temps, c'était quand même... c'était pas trop ça.
Donc, les premiers mois à Saint-Julien, comment tu t'es sentie dans cette ville, enfin, dans ce village ?
C'est isolé quand même, enfin, aussi qu'on a l'habitude, enfin, mais après... Il y a quand même très vite, vu qu'il y a énormément d'artistes, enfin, c'est drôle parce que dans les premiers mois, j'ai monté un projet pour 1% artistique et donc il me fallait des ouvriers. Donc je suis allée voir les entreprises locales, enfin voilà, et du coup, j'ai rencontré très vite des gens, enfin, dans un premier contexte professionnel, mais après, ça a facilité les choses. Et après, voilà, il y a des choses, des petites anecdotes très drôles, c'est que j'ai eu un atelier dans une usine où celui qui est le propriétaire de l'usine avait fait la Villa Arson aussi. Donc c'est vraiment tout petit, mais le monde, de toute façon, est tout petit aussi. Enfin, peu importe où on va, il y a toujours des connexions. Enfin, c'est ça qui m'amuse aussi.
Je vous le dis du bout des lèvres, vous
m'agacez du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve, je rêve.
Elena travaille depuis de nombreuses années en qualité de coordinatrice au groupe d'art contemporain d'Annonay, plus communément appelé le GAC. La vocation de cette association est de créer une rencontre entre l'art contemporain et les habitants du bassin annonéen.
J'aime bien dire que je suis l'homme à tout faire. Enfin, je ne sais pas si on dit femme à tout faire, mais c'est un peu bizarre. Mais ça va de préparer les expos, repeindre les murs, de faire la médiation avec les élèves, de prendre contact avec les artistes, de monter tout le projet d'exposition, après chercher des subventions, enfin, faire les dossiers, faire des bilans, enfin... C'est très très large, mais je crois que, enfin, même si c'est compliqué, parce que c'est un métier qui s'arrête jamais, enfin ça continue tout le temps dans ma tête, même quand je suis pas au boulot. Mais après, je pense que c'est ça aussi qui est excitant dedans, en fait, c'est que c'est toujours autre chose, enfin il n'y a jamais deux jours identiques, quoi. Donc à chaque exposition, c'est vraiment une aventure nouvelle, parce que il n'y a jamais une expérience qui est pareil.
Enfin, oui, voilà, c'est sûr.
Cette chose qui me plaît au GAC, enfin, et dans la médiation, je pense justement, c'est cette manière de parler de quelque chose qui est conceptuel, enfin, voilà, où il y a vraiment une idée, quelque chose d'intellectuel de la part de l'artiste. Mais du coup, quand de pouvoir l'adapter au langage de quelqu'un qui a 6 ans, même, enfin, on a des tout petites sections, donc à 2 ans et demi, ça va à peine parler. Donc là, ça se passe plus dans la description des choses, mais ils retiennent quand même énormément de choses, même des mots assez compliqués. J'ai ces petites anecdotes de... Un enfant de grande section qui, tout d'un coup, elle avait vu beaucoup d'expos dans l'année, et à la fin de l'année, commence à me parler du hors-champ dans le tableau. Je dis, comment tu connais ce mot ? Vraiment, vous l'aviez dit dans l'autre expo. Je dis, ah, d'accord. Donc, ils retiennent quand même énormément. Enfin, et du coup, ouais, on l'adapte vraiment à un public spécifique. Donc, je suis hyper excitée quand il y a des connaisseurs en art, enfin, voilà, avec qui on peut développer un peu plus. Mais après, c'est ça aussi de parler simplement des choses, en fait. Parce qu'avant tout, c'est... Ça vient aussi d'attention assez simple. Enfin,
oui, parce que l'art contemporain, en plus, c'est...
Pardon.
C'est pas de souci. C'est un univers qui peut paraître assez abstrait, assez...
Il fait peur.
Ouais, il fait peur, je pense. Enfin, c'est ça. Donc, il y a vraiment un enjeu, je pense.
Oui, mais les gens, en général, ils ont peur de rentrer, d'être face à des choses où ils ne comprennent pas forcément, en fait. Donc, d'une part, il y a la médiation pour rendre accessible, mais après, je pense aussi que le spectateur doit accepter aussi de ne pas avoir toutes les clés, en fait. Qu'une œuvre, elle peut aussi être juste interprétée, elle peut être juste d'un côté émotif, le ressentir, en fait. Et après, si on a plus de clés, ça devient beaucoup plus intéressant, mais il y a quand même plusieurs lectures et il faut adapter... Il n'y a pas de... Enfin, pour les tout-petits, je dis toujours, c'est pas comme en maths où 2 plus 2 égale 4. Enfin, voilà. Il n'y a pas de réponse juste. Enfin, voilà, on a le droit de suggérer des choses, enfin, même si c'est pas exactement ce que c'est. Enfin, c'est...
Oui, on peut faire... Enfin, chacun peut avoir sa propre interprétation d'une œuvre, quoi.
Ce que je peux même reprocher peut-être un peu à nous-mêmes et à l'art contemporain, enfin, voilà, nous, on est assez enfermés dans la galerie, enfin voilà, il y a cette porte à franchir qui fait très peur. Mais par contre, enfin, j'adore quand il y a des actions. Enfin, on n'a pas toujours l'occasion, mais on a de temps en temps des artistes qui proposent des événements à l'extérieur, et c'est très chouette. Après, voilà, forcément, ça peut pas être des tableaux, ça peut pas être forcément des sculptures pour des questions. Enfin, on a eu une sculpture à l'extérieur, mais qu'il fallait rentrer tous les soirs. Enfin, c'était beaucoup plus compliqué. Mais par contre, enfin, il y a plein d'actions. Il y a eu les panneaux de Didier Talagrand qui étaient comme des panneaux de travaux sur des utopies sur la ville, où du coup les gens se posaient la question, enfin ils savaient pas vraiment si c'était une œuvre, si c'était des vrais panneaux. Et des actions comme ça, j'aime énormément, parce que là, du coup, il y a un côté où on s'attend pas à voir de l'art, elle arrive là. J'ai des journées, je vois énormément d'écoles qui passent, d'autres où j'ai des rencontres avec des artistes, d'autres où je dois aller directement dans l'atelier de quelqu'un, des rencontres avec la région, le département, enfin, des projets qui se créent. Des journées, je peux passer parfois une journée entière sur l'ordinateur que répondre à des mails. Enfin, ça, c'est quasiment ça, c'est tous les jours, même quand je travaille pas. Enfin, il y a énormément de mails, mais après, il y a des jours où il faut repeindre les locaux, où tu reviens crade. Il y a des journées, enfin, c'est toujours, toujours différent, en fait. Et je pense que c'est ça. Mais par contre, ce qui est toujours commun, c'est que j'ai quasi jamais le temps de m'arrêter. J'oublie souvent de faire pipi pendant toute la journée.
Ça m'arrive aussi, si tu veux.
De tellement courir et tout d'un coup, tu dis, ah, mais c'était ça, c'était pourquoi je n'arrivais pas à me poser. Après, je trouve parfois c'est plus difficile de, quand on s'arrête, en fait, tout d'un coup. Et du coup, tout d'un coup, on est perdu, en fait.
Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur.
En 2011, avec une amie, tu crées l'association Moustache et Dentelle.
Alors, en gros, au départ, j'avais cette amie, enfin ma voisine, on se voyait vraiment plusieurs fois par jour, qui était designeuse de textile. On voulait juste avoir un lieu où on crée, mais vu qu'il y avait une vitrine, se dire que c'était un atelier où n'importe qui pouvait rentrer. Et j'aimais bien aussi cette idée qu'on pouvait être coupé au milieu d'une production, devoir en parler, enfin voilà, un peu ce qui m'avait manqué dans mon propre atelier, enfin voilà, de cette communication et échange autour des œuvres. Et après, au bout d'environ 6 mois, on a commencé un projet de vitrine avec des artistes. On a commencé un autre projet de broderie collective aussi. Ça, c'était plus Rujada, donc l'ami designeuse, qui faisait ça. Et très vite, ça a pris un peu d'autres tournures qu'on n'avait pas forcément prévues au départ. Et donc, c'était très chouette parce que du coup, la première session de vitrine, c'était qu'avec des artistes qu'on a fait venir, enfin, je ne vais pas dire de loin, mais enfin, voilà, d'environ 1 heure, 2 heures de route, enfin, voilà, qui est un peu de l'extérieur. Et après, on avait une deuxième session qu'on voulait faire avec les habitants. Et finalement, cette session avec les habitants a eu beaucoup de succès. Tout d'un coup, les gens du quartier se posaient des questions. Enfin, on voyait que c'était cet échange quand il y avait des gens en train de peindre dans la rue, que les gens ils s'arrêtaient. Enfin, et c'était ça, ce côté social qui était le plus important. Donc, c'est ça qui est devenu la majeure partie de la moustache et des dentelles.
Oui, l'idée, c'est de créer une œuvre collective maintenant. C'est souvent
voilà,
ça, en fait,
ce qui est proposé. C'est exactement ça. Après, je suis quasi plus dedans. Enfin, de temps en temps, je viens mettre, enfin voilà, juste un peu le nez sur des projets, enfin voilà, ponctuels. Mais après, voilà, c'est aussi que j'ai plein d'autres activités. Ce qui est intéressant dans une association aussi, c'est que l'association évolue selon les gens qui l'occupent. Mmh. Et du coup, voilà, ils se débrouillent très bien. Enfin, il y a une équipe qui sont disponibles, qui organisent ça, qui font des pratiques et ça me va très bien. Ils se font plaisir et c'est ça, c'est l'essentiel. Et puis je trouve que finalement, ce côté un peu plus social, enfin voilà, atelier ouvert où tout le monde peut venir produire, parce qu'au départ, quand on parlait d'atelier ouvert, c'était plus qu'on pouvait venir regarder, enfin. Alors que là, c'est atelier ouvert dans le sens où tout le monde peut venir pratiquer, peu importe la technique, enfin voilà, et les capacités de chacun. Je trouvais ça très très bien, et puis je trouve que ça complète aussi l'autre activité que j'ai au GAC, enfin, parce que où on est vraiment dans la monstration. Donc je trouve que c'est très chouette qu'il y ait un autre lieu comme ça. Annonay est vraiment à une échelle humaine. Même si c'est une toute petite ville, du coup, c'est petitement humain. Non, après, ce qui est vraiment agréable dans une petite ville comme ça, c'est la facilité, justement, de vite connaître les gens, en fait, et du coup, avoir des rapports assez faciles avec les gens, en fait. Et ça j'aime énormément, en fait. Après, forcément, enfin, j'adore faire des sauts dans des grandes villes, enfin, me plonger dans la foule, enfin, mais au quotidien, c'est pas quelque chose qui m'excite spécialement, enfin, ouais, de certaines choses, de pas savoir par qui prendre, enfin, quelle porte toquer, enfin. Et je trouve que les projets dans une ville comme Annonay, ça devient vraiment facile parce que très vite, on fait des liens entre les gens. J'avais cet exemple il y a quelques années où l'office de tourisme avait besoin d'un... Il y avait le Tour de France qui passait. Ils se disaient, ouais, si on faisait des vélos customisés. À ce moment-là, mais ils nous ont fait une demande. Je lui ai dit, mais pour ça, il nous faut des budgets pour les artistes, enfin voilà, ou quelque chose. En même temps, j'avais une prof, du coup, dans la même semaine de Saint-Denis, qui me demande... Ah, j'aimerais beaucoup travailler sur la customisation. Enfin, voilà, du coup, j'ai fait, OK, on prend 2 projets, on les met ensemble. Et du coup, tout le monde était content parce que les élèves faisaient leurs projets. En plus, il y avait un tout petit budget pour qu'on ait des artistes qui interviennent dessus. C'était montré. Et ça faisait quelque chose de très ludique. Et tout d'un coup, après, voilà, c'est vraiment des choses, des rapports très simples, en fait, que j'aime bien, enfin, d'avoir besoin de quelqu'un, de pouvoir l'appeler, d'aller toquer à sa porte quasiment, parce que c'est aussi petit au niveau géographique.
C'est une proximité dans tous les sens du terme.
Venez donc me parler d'amour à voix basse dans ce contre-jour, et faites-moi, je vous en prie, silence.
Je pense qu'à l'époque où on est, ça arrive plein de fois, enfin, tu fais une chose, des années après, tu découvres que quelqu'un d'autre l'a fait, et parfois, ça part de choses toutes simples, enfin. Mais après, c'est le fait de le faire aussi, d'oser le faire. Les gens, ils rentrent dans une expo, ils disent mais nous, on aurait pu le faire, enfin. Mais oui, mais vous ne l'avez pas fait. C'est cette personne-là qui l'a fait. Et c'est ça qui aussi, c'est juste mettre cette énergie à faire la chose, en fait, et de se questionner sur des matières, sur des. Et après, c'est surtout cette chose de remise en question aussi, que je pense qui est propre. Enfin, voilà, il y a quasiment un regard qui continue, enfin, voilà, une réflexion qui continue tout le temps, en fait, et c'est toujours actif, en fait. C'est ça qui est assez agréable. Après, je sais que je deviens très désagréable si je ne produis pas.
Ouais, tu te rends compte que ça...
En tout cas, je suis insupportable pour moi-même, en tout cas. Donc, ça suffit déjà. Donc, je l'imagine pour les autres aussi. Mais enfin, il y a un besoin de faire des choses. Enfin, voilà, juste pour... Voilà. Et après, par contre, que j'adapte à chaque fois, parce qu'on n'a pas toujours le temps pour... Mais après, j'essaie de toujours avoir des petites choses que je peux prendre à tout moment. Enfin, voilà. Et toujours pour avoir quelque chose en cours qui tient. Enfin, voilà, comme... Un peu comme une roue de bicyclette qui continue à tourner, en fait. Voilà, ce mouvement. Voilà. Début des Beaux-Arts, j'avais des carnets, je remplissais carnet après carnet. Et bizarrement, maintenant, je fais très, très peu de croquis ou de choses préparatoires. Enfin, c'est comme si, enfin, tout à coup, maintenant, l'idée d'être devant une feuille blanche et d'arriver d'un coup dessus... j'adore ça. Et d'ailleurs, j'y joue beaucoup parce que mes dessins, il y a un vrai rapport avec le blanc, enfin, où ça apparaît, enfin, voilà, dedans. Et du coup, sans le blanc, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est étrange. J'ai complètement perdu cette pratique du dessin de tous les jours. Après, je gribouille énormément, mais toujours dans une idée que ça devienne quelque chose, en fait. Quand dans l'atelier, tu as sorti de la peinture, là, si tu entends maman, là, tu fais il va falloir que j'aille. Et du coup, voilà, selon les périodes, enfin, voilà, du coup, je m'adapte pas mal. Et du coup, ouais, c'est... Donc, ça peut être des activités de... Voilà, là, en ce moment, je fais des slogans de mes 68 en broderie. Donc, donc c'est des choses, voilà, et voilà, j'aime bien le fait de me dire je fais de la broderie, quoi. Mais on voit toujours ça d'une manière assez péjorative, enfin, le fait de broder, enfin, voilà, on dit tu fais la Pénélope, enfin, voilà. Mais du coup, je me dis, et si en fait elle était rebelle, en fait, qu'est-ce qu'elle avait à dire, en fait, pas seulement à raconter des histoires, mais après, voilà. Et du coup, je suis arrivée, après, ça m'amusait aussi entre. Le côté dans la broderie qui est très laborieuse, enfin voilà, où on passe, voilà, c'est hyper long, et le tag sur les murs qui sortent en un fragment. Et c'est des petits questionnements comme ça qui reviennent assez régulièrement, enfin, qui m'amusent beaucoup dans ma pratique. C'est vraiment trouver des oppositions dans les gestes, j'avais fait une série d'arbres qui étaient peints à l'encre très laborieusement, enfin voilà, très minutieusement, et après j'étais arrivée avec une bombe rose fluo, enfin voilà, telle qu'on fait les croix sur les arbres avant qu'ils soient abattus, et je savais qu'en un fragment de seconde je pouvais tout gâcher, en fait, mais ça m'excitait pas mal. Et aussi cette opposition de gestes, enfin, entre ce qui est très long, laborieux, et après tout d'un coup, enfin, risquer quelque chose, en fait, ça m'amusait pas mal. Quand j'ai passé mon diplôme, j'avais surtout des installations en bois découpées. D'ailleurs, j'étais super dégoûtée. C'était à mon diplôme de troisième année où je leur ai parlé de cinéma, je leur ai parlé de sculpture, des choses comme ça. Et à la fin, il m'a dit « Ah, t'es devenue vraiment la reine de la scie sauteuse. » J'étais « Mais il n'a rien de mieux à me dire. » Non, donc ça m'amusait aussi, c'est de changer d'activité, enfin, dans la même journée, de jamais rester dans une journée. On traverse plein d'émotions, plein d'état, en fait. Et du coup, l'adapter aussi, en fait. Parce que si, justement, on est tout le temps... Enfin, on peut pas tout le temps être le bourrin dans l'atelier avec la poussière partout. Enfin, je produis plus que je montre, en fait. Mais aussi parce que je suis pas vraiment à aller démarcher pour le faire. Enfin, je prends les expositions qu'on m'en propose et je suis toujours ravie de les faire. Mais après, d'aller chercher, enfin... faire le devant, enfin j'ai tellement l'impression de le faire d'une manière professionnelle pour le GAC, enfin voilà, de faire le travail, ce travail-là, de dossier, enfin voilà, que c'est moins une priorité. Après, par contre, je me rends compte que une œuvre, elle peut pas exister vraiment si elle est pas regardée non plus, enfin voilà, et j'ai besoin de la confronter à un moment ou à un autre, avoir des échanges. Et si ce que je fais, je le montre pas du tout, du coup ça reste dans un tiroir. Enfin, je l'assume pas. Finalement, c'est comme si ça n'existait pas, en fait. C'est assez étrange.
Tant que ça n'a pas été montré, c'est comme si
Il y a besoin d'avoir des critiques quand même, enfin d'avoir des, enfin qu'elles soient positives ou négatives, enfin d'avoir une confrontation au regard de l'autre est quand même assez important. Enfin voilà, aussi d'être aussi de sortir tout ce qui s'est passé dans la tête pendant le moment où on crée, enfin où
Oui, parce que enfin il y a beaucoup d'artistes qui disent il me semble que une fois qu'une œuvre est terminée, enfin que l'œuvre qu'il a fait est terminée, elle lui appartient plus vraiment, qu'elle appartient plus justement au regard
au regard de l'autre. Enfin, c'est vrai qu'on dit ça, mais après c'est vrai et faux, parce qu'il y a quand même un attachement à ce qu'on fait. Enfin, pas enfin, je suis très contente de quand je vois un dessin, ou mais par contre ça fait une séparation aussi, en quelque sorte. C'est quand même à chaque fois des petites parties de soi qui partent aussi, parce que enfin, y a des choses qu'on pourrait très bien refaire, mais ça a aucun intérêt de refaire une chose. Enfin,
t'as déjà fait,
voilà, ça m'est arrivé une fois de refaire une pièce, parce qu'il y avait un galeriste, enfin pour une expo, qui voulait absolument avoir une pièce que j'avais fait en tant qu'étudiant. C'était juste un an après mon diplôme. Je l'avais pas gardé. Il m'a dit non, il faut le refaire. J'ai pu améliorer techniquement, mais par contre, il n'y avait pas cette excitation de parce que je savais comment elle allait fonctionner. Enfin, voilà, il n'y avait pas ce moment où tout d'un coup c'est là, enfin, et ça existe.
Redites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres.
Toujours être maman, je pense même que j'aurais pu être maman encore plus tôt, et mais après quand même juste après les diplômes ça va quand même.
T'avais quel âge du coup?
Moi je n'étais pas si jeune que ça, enfin j'avais 25, mais bon bah, du coup j'ai eu mon diplôme à ce moment-là en fait, donc c'est là où c'est tôt, parce que j'ai pas eu le temps de vraiment
vivre
et faire une vie d'adulte, enfin après étudiant en fait. Mais non après j'ai compris par la suite, enfin David lui il avait dit, c'était genre quand on avait déjà deux enfants, un jour il m'a dit là ça y est je suis prêt à être papa. De toute façon, enfin ça a pas été, après ça a fait des choses que assez compliquées, enfin voilà, parce que du coup on s'est débrouillé toujours par-ci par-là, enfin après c'était surtout le premier qui a vraiment suivi beaucoup de soirées, beaucoup de sorties, de festivals, mais qu'il a beaucoup, enfin voilà, il a bien vécu. Après ça donnait peut-être, je commençais peut-être un peu plus à accepter aussi de parfois demander des coups de main, parce que je suis atroce avec mes enfants, je suis très mauvaise pour les prêter, hein. Pour dire, je crois que la première fois où je me suis séparée, il avait au moins 2 ans en fait. Alors je pouvais pas, quoi. Enfin, je les emmenais de partout en fait. Mais après, je pense aussi que c'était pas vraiment seulement dans un truc de maman poule. Enfin, je pense que c'était un truc que j'avais envie de tout partager avec eux en fait. Et j'avais du mal à accepter de dire envie des choses séparées. Enfin, j'avais envie de partager tout. Il y a quand même. Autre chose, enfin aussi fait que pendant 9 mois, on a vécu avec à l'intérieur de soi. Enfin, il y a un autre lien. Et d'ailleurs, je pense aussi, c'est ça qui est hyper dangereux dans un couple quand on met un enfant au monde, c'est que justement, le père doit encore avoir une place dans tout ça, en fait. Et,
ça doit pas être évident.
Ah non, je trouve que c'est hyper, hyper compliqué, en fait. Pendant une période, j'ai oublié, en fait. Et après, ça allait beaucoup mieux quand j'ai commencé à travailler au GAC, parce que tout d'un coup, j'avais aussi un peu mon truc à moi, en fait, qui était ailleurs. Et du coup, là, laisser un peu plus... David aussi être un peu plus son rôle de père. Mais après, je pense que surtout, on se complète énormément. Après, comme dit, nous, on n'est pas un couple ordinaire parce que du coup, notre emploi du temps, enfin, on a cette chose de travailler... Enfin, on a tous les deux des petits emplois fixes, mais du coup, à des semaines, enfin, à des jours opposés. Comme ça, on a quand même des temps avec les enfants les autres jours. Je pense que c'est justement ça qui est aussi important, c'est de se laisser énormément de temps et de vivre des choses à l'extérieur, en fait. Chacun de son côté, en fait. Mmh. Et ça, c'est hyper important aussi. Parce que,
oui, de ne pas s'étouffer aussi, voilà, et dans l'excès inverse.
Voilà. J'adore quand il y a enfin, voilà, justement ces choses d'imprévus, des choses comme ça, enfin, de juste dire, mais vas-y, enfin... va faire autre chose, enfin de pas tomber dans une routine, enfin du coup justement, enfin toute ma vie c'est de l'anti-routine quasiment. En fait. Je crois pas que ça me fait peur, mais après je pense juste que c'est quelque chose qui est impossible en fait, parce que enfin je suis incapable de suivre une recette de gâteau, une recette de cuisine, enfin je l'autre fois j'avais une copine qui était là, je préparais un gâteau d'anniversaire pour amener à l'école pour ma fille. Et elle m'a regardé avec des grands yeux. Elle me dit, mais attends, mais ça va être immangeable. T'as rien regardé ce que tu fais là, tout en parlant, t'as mélangé des choses. Et je, ouais. Et c'est toujours ça. Enfin, voilà, c'est toujours de l'expérimentation un peu. Mais il était bon, le gâteau. Je crois que parfois, le grand a fait quelques remarques, parfois que j'étais là sans être là, parce que souvent j'étais coupée par un coup de fil ou des choses comme ça, parce que, enfin, je n'ai pas dit, mais le gars, c'est aussi un bébé en quelque sorte, enfin, voilà, il faut toujours être présent. Enfin, voilà, et,
tout ce qui est associatif, en général, voilà, ça demande toujours d'investissement.
Il ne quitte pas, mais voilà ce que j'aime bien aussi. Enfin, voilà, je pense que c'est exactement pareil que quand je dis que je n'arrivais pas à quitter les enfants, c'est un truc, c'est de vivre tout pleinement, en fait. Quand ils avaient des illustrations de poésie, enfin, ils rendaient des dessins animés, enfin, voilà, des incrustations sur fond vert, enfin, voilà, du coup, mais toujours en essayant de faire en sorte, c'était pas toujours très clean, on le faisait pas à leur place, mais on voulait qu'ils, voilà, eux aussi, qu'ils s'approprient des médiums, enfin, voilà.
Vous faites en sorte quand même qu'ils soient sensibilisés à cet univers-là.
Oui, après, je pense qu'il y a un moment où ils vont pas forcément... Enfin, parfois, ils râlent un peu parce qu'ils voient trop d'expos.
Moi, c'était pareil. Non, mais moi, parce que la petite, du coup, petite parenthèse, mais papa, il m'a tellement, enfin, ma sœur et moi, il nous a tellement trimballé partout dans les expos. Et comme c'est quelqu'un de très bavard, après les expos, souvent, une fois qu'on avait fait le tour,
il rencontrait quelqu'un,
il discutait, mais des heures. Et nous, on finissait toujours dans la voiture à dormir sur le siège arrière. Et du coup, pendant un temps, même ma sœur et moi, on a fait un rejet de tout ça. On disait, non, ça c'est bon, on en a marre, ça suffit, on n'y va plus. Et maintenant, on se rend compte de la chance qu'on a eue
de
découvrir tout ça.
Soren, mon grand, donc quand il était petit, quand il dessinait, il disait « je travaille ». Parce que je pouvais forcément lui dire à des moments « non, là, je ne peux pas, je suis occupée, je travaille ». Et du coup, il y avait des confusions. Après, voilà, on garde des petits rituels avec lui. On fait le musée de Saint-Étienne tous les deux mois, comme ça, juste tous les deux. Après, on a plein d'expos qu'on voit en famille. Mais après, j'aime bien aussi avoir des moments privilégiés avec chacun d'eux. En fait.
Parce qu'ils ont quel âge, respectivement?
Alors lui, il a 13. Ma fille, elle a 10 et le petit, il a 4. Après, il y a des compromis à faire, par exemple. Enfin, on est allé à Florence, donc on faisait deux jours de musée. Et après, une journée à la plage, et après, rendez musée, enfin, et après, je trouvais des activités, enfin, voilà, aussi des musées qui étaient vraiment accessibles pour eux, en fait, aussi.
Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur, vos cris me dérangent.
C'est dur d'être artiste, c'est encore plus difficile d'être femme artiste, mais alors être maman artiste, c'est une horreur. C'est qu'on pense vraiment que c'est un passe-temps qu'on fait juste entre. Quand j'ai eu mes enfants, j'étais encore dans une boulimie de travailler pour prouver quelque chose. Mais les gens, ils sont là. Bref, tu es femme au foyer et tu as une pratique.
Tu t'amuses dans un petit
dans coin. Quoi, là. Par exemple, quand on voit ta chaîne qui sort un livre sur les femmes artistes, moi, ça m'énerve parce que je trouve juste que c'est des artistes avant tout et devoir les mettre dans un panier spécial, c'est... Je comprends pas, pourquoi, on parle pas on fait pas un livre que sur les hommes artistes, par exemple, enfin voilà, on les mélange,
pas,
voilà.
Bien sûr.
Il fait des, eu des discussions avec des gens pour organiser des expositions, tout en laissant mon enfant. Enfin, voilà, et du coup, parce qu'il s'excitait, il hurlait un peu, voilà, du coup, je le mettais au sein. Et c'était assez drôle, enfin, voilà, cette double vision, en fait, que la personne ne voyait pas parce qu'on est au téléphone. Mais, après, je pense qu'il y a plein de métiers où, en fait, là, on est obligé de jouer comme ça.
Vous venez d'écouter Elena pour Café Simone. Mille merci à elle pour son enthousiasme. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à en parler sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez me donner un coup de pouce, alors n'hésitez pas à laisser 5 étoiles à Café Simone sur iTunes. Retrouvez toutes les références de ce portrait sur www.cafésimone.fr. À très vite.